L'œil du phare, chapitre 4. L'effet moral. On reçoit l'homme, dit un proverbe russe, suivant l'habit qu'il porte. On le reconduit suivant l'esprit qu'il a. Dans l'étroite cabine du yacht Le Dauphin, comme au Pignon Rouge, la mentalité nouvelle des Dupin va bien contrarier l'admiration spontanée que leur avait acquise tout d'abord le faste de leurs moyens d'existence. S'il est attrayant de faire rapidement fortune au lieu de besogner à cultiver la terre héritée de ses aïeux, est-ce à dire que tout soit là? La convoitise des biens de ce monde suffira-t-elle à combler la vie? Et la part de l'âme qui réclame aussi chez les natures les plus frustes sera-t-elle méprisée devant la richesse? L'argent peut servir à tout, mais s'il est avant tout comme principe, il détruira tout et ne réparera rien. Jean, ce soir-là, avant de s'endormir, entretint longtemps sa pensée des conseils que lui donnait naguère son vieux précepteur pour l'orienter dans sa destinée. Une étrange définition qu'il lui laissa de l'homme l'obsédait surtout. « Souviens-toi toujours, mon Jean, que l'homme est un composé d'un ange et d'une bête. Plus on flatte la bête durant la vie, plus l'ange souffre et s'ennuie. » Or, il songeait que chez son cousin, il admirait bien l'autre, mais ne connaissait pas encore l'ange. Il avait sous les yeux le jeune homme bien campé, plein d'attrait, riche et même instruit, mais il s'inquiétait maintenant de ne lui avoir entendu parler que du bien-être dans la vie, sans rien savoir de ce qu'il pensait des responsabilités de la vie. De ne l'avoir jamais vu, par exemple, ni soir ni matin, à genoux et en prière, ce qui pour lui-même jusqu'à présent lui avait semblé chose aussi naturelle que d'ouvrir l'œil et la bouche aux besoins de chaque jour. Déjà aussi, au village, au presbytère, le cancan malveillant et empressé est venu jeter l'émoi, en disant que ces Canadiens, si riches, après tout, ne vont à la messe que s'il fait beau. Mais gardons-nous d'anticiper sur le cancan trop rapide en son cours. Jean, toutefois, restera quelque peu observateur, à la recherche de l'ange chez son cousin, qui lui représente le personnage de plus en plus exclusif et encombrant de l'homme du monde. Toute voile déployée à la brise légère ou sous la poussée de son hélice, le Dauphin avait déjà franchi sans encombre, par l'est de l'île verte et de l'île rouge, la longue traversée diagonale de Kakuna à la pointe des monts. Superstitieux et volontaire, le capitaine du yacht, Augustin Blouin, vieux routier de notre navigation côtière, n'aime pas le Saguenay. Toutes ses préférences, qu'il s'efforce d'imposer aux autres, vont au chapelet de baies qui dentelle la rive nord du grand fleuve, jusqu'aux îlets de Mingan. Puis, s'il lui reste du temps avec du bon vent, il mettra le cap sur les parages d'Anticosti et la côte gaspésienne qu'il connaît très bien. Quant au Saguenay, c'est après tout cela, vent en poupe ou à bordée trop courte, maugréant à chaque virage ou accroché ici et là sous des caps géants qui lui cachent l'horizon, qu'il en fera, en rechignant, les honneurs à ses hôtes, quand on le paie bien. Les deux jeunes gens, surtout Émile, ne manquaient pas de s'amuser de son caprice. Les trois autres marins de l'équipage, entravés par la discipline, se contentaient secrètement de faire part aux « bourgeois » des lubies d'Augustin. On leur fit remarquer ainsi, ce qui égaya beaucoup l'Américain, que depuis 3 semaines de cette croisière, durant la journée du samedi, on naviguait toujours pour rallier quelques postes établis, en vue d'un clocher de chapelle ou d'église, hélas trop rare, bravant même le péril s'il le fallait, pour atterrir et tenter un débarquement qui conduira l'équipage à la messe du dimanche. Car Augustin est profondément religieux. « Il n'aime pas, dira-t-il, quand on ne navigue que pour son plaisir, traîner sur l'eau le dimanche. Cela attire la malchance. » Si la côte est trop sauvage ou trop malsaine, le poste trop éloigné, il dirigera son vaisseau dans les eaux sûres de quelques baies, à l'abri d'un cap protecteur, et il orientera sa pensée vers le monde où l'on prie, en donnant son ordre du jour. « Aujourd'hui, mes enfants, il n'y a pas d'autre chose à appareiller que le chapelet. » Émile Dupin n'avait encore fait aucune étude de ses mœurs. Son éducation à lui, trop tôt soustraite à la sollicitude maternelle et confiée à l'État dans des institutions où la culture intellectuelle et la culture physique n'offrent rien pour l'ange qui loge aussi chez l'homme, l'avait mal préparé à l'appréciation juste de ces traits de foi vive du caboteur laurentien. Et son cousin Jean, scandalisé de ses moqueries peut-être, regrette intimement l'absence de spiritualisme religieux dans ce jeune homme, qui lui paraissait d'ailleurs si parfait. Un jour, c'était le samedi matin, par une très forte brise de l'ouest, le dauphin sortit de la baie aux outardes. « Le temps est dur, » se disait Augustin, qui avait pourtant son idée de gagner les sept îles ou la baie Sainte-Marguerite pour y passer le dimanche. Jusqu'à présent, la navigation avait été pour lui facile et plaisante, et il lui souriait en outre d'affronter un peu le gros temps, pour faire voir, quand on n'est pas marin d'eau douce des États, ce que vaut un capitaine du Saint-Laurent, qui ne craint pas de dire son chapelet à bord. En effet, à peine le vaisseau avait-il quitté les eaux mortes de la baie que le grand vent et les grands courants du large l'assaillirent. Il se coucha à bâbord sous sa voilure pourtant réduite et prit une allure que les deux jeunes gens ne connaissaient pas encore, pendant que, pour doubler la pointe de l'est, Augustin, d'un bras ferme à la barre, le tenait au vent, engageant parfois sous la vague écumante son plat-bord jusqu'au capotin. Émile Dupin ne voulait plus rire et semblait trouver chez le vieux marin quelque chose comme un homme supérieur qui disposait pour le moment de leur vie à tous. La scène ne manquait pas de grandeur. Augustin, qu'il ne cessait d'interroger sur l'imminence et les chances du péril, eut l'occasion bonne de lui faire entendre que l'homme du monde accompli accuse encore de petit côté, que ni la richesse ni l'instruction ne sont des antidotes de la peur vulgaire. Tout à l'heure, la course rectifiée et le vent pris en poupe, le yacht se redressera, à la grande satisfaction de l'Américain. Mais par contre, le capitaine deviendra plus soucieux. Sur la lame qui accourt de l'ouest, rageuse et rapide, qui creuse un gouffre sous le couronnement du vaisseau pour le submerger quand il y sera descendu, Augustin constamment jette un regard inquiet, et de sa main droite, confiant à la gauche seule la direction du vaisseau, il trace d'amples signes de croix. Et la vague, infailliblement de passer, en courbant le dos sans la noyer de sa masse, sous la nef qui remonte allègre de l'abîme. « Quand la mer dépasse, » dit Augustin, « il n'y a rien comme le signe de croix pour l'envoyer fleurir en avant. » Ce fut une rude journée. Elle laissa des impressions bien différentes à l'esprit des deux cousins. Sur le soir, rendus à bon port, Émile Dupin sent comme un regret s'introduire dans ses sentiments par trop matérialisés. Il scrute l'œil noir du vieux Blouin pour y admirer le reflet d'une foi religieuse qui surélève les âmes et rend les cœurs plus forts que la mort dans son escorte de danger. Jean, au contraire, voit poindre chez lui, à son esprit de terrien assujetti aux occupations de la glèbe, cette force atavique de caractère qu'il ne connaissait pas, qui se plaît au hasard périlleux des aventures maritimes. Tandis que son compagnon, pâle et apeuré, avait eu à lutter à la fois contre les nausées du mal de mer et les angoisses de la peur, lui, le pied marin et l'âme sereine, voulait trouver dans ce déchaînement des éléments de la nature l'impression de choses déjà vues. L'effet moral de cette journée sur l'esprit d'Émile Dupin vous consolerait peut-être, monsieur le curé de Saint-Germain, vous qui craignez tant celui de son faste sur la mentalité de votre protégé. Mais le plus grand obstacle à tous vos beaux projets pour l'avenir de Jean, qui vous dira qu'il est là, dans l'instinct aujourd'hui réveillé de ce fils de marin. Jean aime la mer. Il l'admirait aujourd'hui pour la première fois dans sa fureur grandiose. Elle l'attendrira désormais et le fera rêver de ses pères, de la placidité de la vie qu'ils retrouvaient au foyer après leurs courses aventureuses. À la nuit, lorsque sous le scintillement des astres, calme et charmeresse, elle chante la mélopée insidieuse dont le cœur du marin s'impressionne et s'enivre pour le reste de ses jours, il lui demande si elle ne dispose pas du secret de sa destinée. On passa agréablement la journée du dimanche aux sept îles. Émile se plut à apprécier les possibilités industrielles de cette localité entre des milliers d'autres qui feront la richesse du vaste Canada. Plus intimement, il voit aussi dans le vieux capitaine Augustin, qui vaque sans respect humain à ses dévotions hebdomadaires, autre chose qu'un bonhomme original et inculte. Il admire une force de caractère, plus belle que l'énergie humaine à la recherche de l'argent. Entre-temps, là-bas, de l'autre côté du grand fleuve, au village de Saint-Germain, depuis le départ des deux cousins jusqu'à leur retour, l'effet moral aura bien travaillé aussi les âmes. Dans la maisonnette au pignon rouge, sous la croix noire appendue à la muraille, croix symbolique que l'on retrouve au foyer de tout paysan canadien, qui fascine ses premiers regards au berceau et les derniers de son agonie, avant de se coucher sur sa tombe et le conduire ensuite au cimetière, sous la croix noire et le portrait d'un premier communiant, deux femmes prient chaque jour pour les absents. Quand le vent hurle dans la futaie des collines, que la vague moutonne au large et le ressac arrose copieusement la rive, leurs inquiétudes s'affirment et se concertent. La mère regarde surtout la croix noire, l'autre le portrait de l'enfant, car la première n'a pas besoin qu'on lui rappelle l'image toujours présente en son cœur de celui qui est sa vie. On demande à Dieu de le protéger dans les périls de la mer, plus encore de le prémunir contre ceux de la vie qui vont l'attirer dans les grands courants irrésistibles où l'enfant s'égare, où l'ami se perd. Au cette île, après mûre délibération des bourgeois, appuyé de l'avis du capitaine, il fut résolu que la croisière à l'est se terminerait là, si l'on voulait avoir le temps de « traîner un peu dans le Saguenay », disait Augustin, et pour ne pas s'exposer à affronter de nouveau quelques bourrasques du golfe, pensait secrètement Émile Dupin. Et puis, les deux jeunes gens aimeraient à jouir, avant la fin des vacances, de quelques semaines de la belle villégiature, si attrayante à son début au bain de mer de la rive sud. La course en retour se fit sans incident remarquable ni regrettable. Elle fut ce qu'elle devait être, impressionnante sur les abîmes du Saguenay, au pied des caps Éternité et Trinité, masses énormes de gneiss et de syénite, puisque c'est dans le programme du tourisme américain. Et en dépit du mauvais vouloir d'Augustin, qui n'avait pas cessé d'être maussade avant d'avoir bien perdu de vue la baie de Tadoussac. Il y eut grande réjouissance à Cacouna, comme au Pignon Rouge, quand une dépêche vint annoncer que le 2 août, à la marée montante du soir, le dauphin aborderait. Les Dupin s'empressèrent de faire part de la nouvelle à la veuve Pellerin, qui dépêcha Rose le dire à monsieur le curé. Et effectivement, quand le dauphin, signalé au large depuis une demi-heure, gracieusement incliné sous la brise, dépasse la tête du môle pour s'y réfugier au dernier battement de ses voiles, comme fait l'oiseau de ses ailes en regagnant son nid, il y a double explosion de joie et de viva là-haut sur la jetée, où les mains s'agitent dans l'air et les voix clament l'allégresse. En bas, sur le yacht où l'on se trémousse pour parer l'amarrage, au commandement d'Augustin, dont l'œil superbe se montre rasséréné du panorama saguenayen. Chapitre 5. Idées nouvelles et projets nouveaux. Jean était revenu de son voyage avec une première expérience des hasards de la vie loin du foyer natal. Idée bien à lui, personnellement élaborée, avec d'autres plutôt suggestives empruntées à son camarade. En comparant Émile Dupin, pusillanime et amoindri, avec le vieux Blouin, au dépourvu ignare, pauvre, minime et grotesque, mais grandissant tout à coup à l'égal du péril, il a pu constater qu'après tout, tant vaut la force morale chez l'homme, tant vaut l'homme. À l'encontre de cette observation toute personnelle, il se défend malaisément d'admirer quand même son cousin, et en lui, l'appoint matériel de la richesse, plus encore que la supériorité intellectuelle. Se disant que celle-ci ou bien est un don gratuit du ciel, ou un perfectionnement connexe de la richesse qui peut s'acquérir. Mais en résumant les dires du jeune Américain, il est tenté de croire aussi que dans le monde et pour le monde, le plus souvent c'est l'homme factice et surfait qui l'emporte sur l'autre. Que la bravoure, la force, l'expérience, le savoir, la vie morale, tout cela peut être réduit en service, parfois même en servage, sous l'empire de l'argent. Et les récents tête-à-tête avec son cousin lui en ont appris beaucoup sous ce chef. Ils lui serviront d'enseignement sur l'importance de la richesse et d'entraînement sur les moyens de l'acquérir. Ces idées nouvelles, il voudra bien les entretenir secrètement, le plus longtemps possible. Mais elles le trahiront trop tôt, dans les causeries familières du foyer, dans les entretiens inquisiteurs de son maître. Durant tout le reste des vacances, les relations entre les familles Dupin et Pellerin ne cessèrent pas d'être cordiales. Si les villageois de l'entourage, revenus de leur impression première, aimaient quelque peu maintenant à gloser entre eux sur le faste des parvenus et encore mieux sur leurs pratiques anti-canadiennes ou leur religion frelatée, il ne faudrait pas connaître la mentalité à la fois jalouse et roublarde du villageois pour s'en étonner. Ceux qui faisaient l'objet de cette petite malignité étaient peut-être seuls à ne pas s'en apercevoir, tant on se montrait tout de même obséquieux en présence du veau d'or. Cette réserve circonviendra également les pèlerins jusqu'à la fin des vacances seulement. Après quoi, monsieur le curé s'emploiera charitablement, d'une part à refréner la médisance, de l'autre à combattre l'engouement. Ce n'est qu'après le départ de leurs parents américains que la veuve et son fils comprirent bien quelle place ils avaient déjà prise dans leur esprit. Les parents riches, durant ces derniers mois. Le regret des adieux fut sincère chez les deux sœurs et tempéré par un vague espoir de retour. Puis, lorsqu'Émile eut finalement gagné la ville de Québec, il se fit opinion rouge comme un vide qui attirait, pêle-mêle, réminiscences, désirs, espérances et projets. Quand monsieur le curé lui proposa la poursuite de ses études, Jean ne voulut pas y refuser. Mais il s'y prêta comme mal éveillé d'un rêve. Peu à peu, ses réluctances s'accusèrent, au grand chagrin longtemps secret de son précepteur. Mais la perspective d'une instruction supérieure et professionnelle, défrayée par la générosité de son oncle, ne pouvait plus lui sourire. « Il était trop vieux, se disait-il, à 20 ans bientôt, pour faire un cours d'études et un stage. » Cette idée-là entravera ses succès. Ce qu'il étudiera désormais lui paraîtra de la superfétation, quand le temps presse et l'exemple d'un oncle Dupin invite à la vie pratique. Le bon curé, ne laissant pas d'observer le travail qui s'opère dans ce jeune esprit désorienté, attend patiemment le jour où il faudra solutionner tout cela. Dût-il lui-même renoncer à ses premiers projets, évoluer aussi, lui, vers une orientation nouvelle. Ce qu'il désire avant tout, c'est que Jean Pellerin reste canadien, catholique et français. Et les leçons qu'il donne journellement sont de plus en plus compromises par des arrière-pensées qui lui font craindre l'inanité de ses efforts pour atteindre son objectif préconçu. Il songe aux grands moyens de réagir contre les inclinations nouvelles de son élève. Il le voit bien, il faudra de grands moyens. L'esprit de Jean lui échappe et trotte vers des horizons maintenant reculés. Ses lectures de préférence s'attardent dans les ouvrages de géographie, sur tous les récits de voyage. Et le bon vieillard avise à retenir au colombier l'imprévoyant pigeon qui voudra bientôt partir. Ce grand moyen qu'il voit poindre dans ses réflexions pastorales, il lui donnera le temps de se dégager de ses ombres, de se mieux affirmer, avant de le faire connaître même à la mère de Jean. Toutefois, il importe d'en établir au plus tôt les préliminaires. Il faut rattacher à la terre canadienne ce fils de paysan canadien. Le rattacher à cette bonne terre, recelant avec l'avenir de sa race les ossements des siens qui ont vécu d'elle. L'empêcher de la mépriser davantage. L'y retenir par les liens les plus forts, ceux du cœur. Le dissuader enfin de cette erreur si funeste à tant de Canadiens français, que le patriotisme serait un vain mot, que la patrie, c'est le bien-être matériel. Des inquisitions discrètes et prudentes, dans la paroisse, le servirent à souhait. Et enfin, l'heure d'une première explication sur ses idées nouvelles s'est inopinément offerte le jour de la Toussaint. Ce jour-là, après la grande solennité qui commémore la vaillance et l'impérissable richesse de ceux qui ont recherché ici-bas les biens éternels, l'Église nous rappelle encore, dans la tristesse, tout spécialement le souvenir de ceux qui sont le plus récemment partis pour leur éternité, de ceux que nous avons connus, dont la terre n'a pas encore fait de s'assimiler la dépouille mortelle. Dans nos villages, il était une coutume pieuse qui, à cette intention, conviait, aux dernières heures de cet après-midi funèbre, les hommes de la paroisse, surtout les jeunes gens, à venir sonner successivement le glas de leurs défunts. Et depuis les dernières vêpres jusqu'à l'Angélus, le plus souvent sous un ciel morne, à travers les champs dépouillés et la nature elle-même tout en deuil, le carillon chantait, au-dessus des tombes du cimetière et des maisonnettes du village, l'espérance en l'exultation finale de nos os humiliés. Jean Pellerin s'était généreusement prêté à cette pieuse corvée. Un moment, monsieur le curé, qui l'aperçut, ne put se défendre d'admirer la virilité de sa force et de ses mouvements. Ce n'était plus l'enfant malingre dont la santé, il y avait quelques mois à peine, lui inspirait tant de crainte. Il l'attendit au sortir de l'église. « Viens donc, Jean, si tu le veux bien, j'aurais à te parler. » Et bras dessous, comme deux confidents d'un âge plus égal, ils partirent lentement sous les grands saules tristes et recueillis qui bordent la place. « Tu vois là, Jean, au cimetière, toutes ces croix, tous ces monuments, riches ou non, témoignant chacun d'une seule et même chose, qu'une vie comme la nôtre, un peu plus longue, un peu plus courte, a fini là, après tant d'autres dont le souvenir n'est pas encore effacé. Tout cela dont la cloche avait sonné le départ, qu'elle rappelle aujourd'hui à notre pensée, en nous invitant à leur être encore secourables par la prière. Tout cela, ce sont les nôtres. Ils ont vécu ici comme nous. Ils y ont laissé ce que l'on peut laisser sur la terre, les restes de leur corps et l'histoire de leur vie. Ce qui nous permet, à nous qui sommes leurs successeurs et leurs enfants, à nous qui les avons aimés et voulons les aimer toujours, de les entretenir encore en ces lieux familiers, de leur dire et leur prouver que nous ne les avons pas oubliés en attendant l'heure d'aller aussi les rejoindre. Ils furent ce que nous sommes, et nous leur devons de rester ce qu'ils ont été, afin de perpétuer la tradition familiale et patriotique qu'ils nous ont confiée avec leur sang et leur nom. Ton cousin, l'Américain, auquel tu portes envie, c'est facile à voir, a dû te dire ou te dira comment on s'enrichit aux États-Unis. Il t'apprendra qu'il fait bon vivre dans l'opulence, dans l'argent, comme on dit plus tôt. Mais il ne t'apprendra pas, parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il ne le saura jamais, que ce n'est pas tout de vivre, et qu'il faut se survivre. Va au pied de la montagne de Saint-Pascal. Il y a là 40 arpents de terre en culture que les vieux de la paroisse te désigneront. Sais-tu comment? Le bien du défunt François Dupin. Ils te diront que ce Dupin avait deux fils, l'un qui est mort trop jeune, et l'autre qui, ayant voulu vivre trop vite, a tout vendu pour s'en aller aux États, où il a fait fortune, paraît-il. Et c'est tout ce qu'il reste d'eux sur ce morceau de terre canadienne, que leurs ancêtres, depuis 200 ans, que la belle langue française elle-même appelait leur bien. Comprends-tu la signification vraie de ce mot patriotique? Le bien, l'opposé du mal, le bien que l'on a fait, le bien dont on vit, le bien que l'on hérite de ses pères et qu'on laisse à ses enfants avec l'amour des siens et l'orgueil de son nom. C'est plus qu'un avoir immobilier, c'est mieux qu'un actif dont on peut troquer la valeur sur le marché. C'est de la patrie sacrée, le bien de la famille. Or, crois-tu que si tout cela, dont les restes attendent ici le grand réveil, avait aussi déserté la terre canadienne, comme l'oncle Dupin, pour s'en aller s'enrichir et mourir au milieu d'un peuple dont le tiers peut-être n'a pas d'autre religion que le bien-être de la vie, après avoir tant suivi et regardé les hommes qu'ils auraient oublié le ciel? Crois-tu, Jean, qu'au moment où nous en parlons, ils seraient plus heureux qu'ils ne le sont là? Ceux à qui ils auraient laissé leurs richesses, laborieusement acquises, j'aime à le croire, n'auraient pas manqué de les commémorer respectueusement dans le faste d'une sépulture. Mais l'isolement, au sein de la terre étrangère, le tourbillonnement de leurs mérites purement humains, entraînés avec leurs capitaux et leurs souvenirs dans le gouffre vertigineux des intérêts matériels sans cesse renouvelés, leur vaudrait-il, à cette heure, dans leur éternité, la voix grêle de la pauvre cloche qui parle des nôtres à nos oreilles, en évoquant sur les cendres de leurs ancêtres, au milieu desquels ils seront bientôt confondus, la tradition sainte et familiale qui les fait revivre dans nos cœurs? Le crois-tu, mon Jean? Je crois, monsieur le curé, et je croirai toujours tout ce que vous avez voulu m'enseigner, pour devenir, comme vous l'avez dit tant de fois, un brave homme, un bon Canadien. Seulement, permettez-moi de vous le demander, est-il nécessaire pour cela que je vive et meure pauvre à Saint-Germain? Non, mon cher, je ne dis pas cela. En songeant à t'instruire, j'avais l'intention de faire de toi un homme rehaussé de son milieu familial, un homme plus distingué. Que tes pères me le pardonnent. Mais je le crains, depuis que tu as des idées à toi, ce n'est plus cette distinction-là que tu désires. Et pourquoi cela? Les vacances, les vacances. La fréquentation de ce jeune cousin qui n'était pas de ton rang, comme l'on dit ici. Prends garde qu'elle ne te soit devenue funeste. Il t'a mis dans la tête des idées que tu n'aurais jamais eues. Vous ne l'aimez pas, mon cousin, monsieur le curé. Je ne voudrais pas vous déplaire en le défendant, mais si vous l'aviez mieux connu, vous verriez qu'il n'est pas méchant. Ai-je dit qu'il était méchant? Je sais qu'il est riche. Je comprends qu'il en est averti, qu'il trouve toutes les satisfactions au début de la vie, qu'il ne refuse pas de s'y attacher, et que cela peut être pernicieux pour mon Jean, dont l'enfance et la jeunesse ont été privées de tant de choses, même de l'amour paternel. Ne me dis pas que je trouve ton cousin méchant. Il est ce que son éducation devait en faire. Il est ce que tu voudrais et ne saurais être. Voilà pour toi le grand danger. Et si je ne le voyais pas comme vous, ce grand danger? Il n'en serait alors que plus grand. N'est-il pas vrai, dis donc, que tu trouves ton cousin plus heureux d'être riche que d'être instruit? Oui, peut-être. C'est ce qu'il pense aussi, lui, d'après ce qu'il m'en disait un soir. Il te reste au moins une belle candeur, et ne pourrais-tu m'apprendre ce qu'il te disait un soir à ce sujet ?
Cela ne vous plaira pas, je le crains bien.
Dis quand même, puisque de la dissimulation chez toi maintenant dans nos entretiens me déplairait davantage.
Il disait, comme cela en riant, avoir lu quelque part qu'aujourd'hui un licencié S-lettres n'était qu'un mercenaire auprès d'un chauffeur d'automobile, et il trouvait cela très drôle.
Voilà. Or, s'il n'a pas poursuivi pour reconnaître qu'il est plutôt souverainement triste de voir aujourd'hui les pieds au-dessus du cerveau, car j'ai lu aussi, moi, cette drôlerie, c'est qu'il est acquis à ces idées-là, qu'il se trouve bien dans ses mœurs nouvelles. Ce fils à papa aura probablement juste assez d'instructions pour savoir jouir des capitaux à papa, mais non assez pour s'en consoler s'il n'avait jamais pu les acquérir par lui-même. Comment peut-il savoir ce que vaut l'instruction? Sait-il seulement ce que vaut l'argent dont il est si fier, qui lui vient du travail d'autrui, et auquel son instruction personnelle ne saurait suppléer?
Il sait qu'avec la richesse on obtient l'instruction, tandis qu'avec l'instruction on n'est pas sûr d'acquérir la richesse.
Avec une instruction dont on n'apprécie pas les avantages, si l'on convoite avant tout l'argent, il vaut peut-être mieux, en effet, se faire chauffeur d'automobile. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu t'enseigner. L'ange et la bête chez l'homme dont je te parlais un jour n'accusent pas les mêmes besoins ni les mêmes goûts. Je te laisse à comprendre lequel des deux trouve son bonheur exclusivement dans la richesse. Je te laisse à réfléchir, en dernier ressort, s'il le faut, sur ces paroles de Sénèque que tu voulais bien admirer il n'y a pas longtemps. Ecce par Deo spectaculum, vircum adversis compositus.
Tiens, tu m'entraînes trop loin. Toi-même, puisque c'est de toi avant tout qu'il faut s'occuper, que désires-tu maintenant? Où veux-tu en venir?
Je veux travailler au plus tôt. Sinon pour devenir riche, comme vous pensez, du moins pour gagner dignement ma vie et celle de ma mère, ne plus avoir à compter sur la charité des autres.
Sans te demander s'il n'entre pas un peu trop d'orgueil dans ce désir, me dirais-tu maintenant ce qu'il te faudrait faire pour cela, demain, tout de suite?
Non, ne parle pas encore, tu n'en sais rien. Tu ne sais vaguement qu'une chose, c'est que pour avoir de l'argent à la main, comme ton beau cousin, pour être heureux à sa manière et sur les brisées de son père, il te faudrait laisser là tes livres pour courir à la besogne payante. À la chance qui ne nous attend pas, mettons à l'aventure.
Eh bien, soit. Allons, partons, je te suis. Tu fermes tes livres, tu quittes ta mère, pour ne plus jamais la revoir ici-bas, peut-être. Et le Canada, cela va de soi, puisqu'on y fait guère de fortune rapide. Tu travailles, tu peines, à l'étranger et pour l'étranger. Au mieux, ce qui n'est pas sûr, tu t'enrichis comme l'oncle Dupin. Et après? Tu meurs, et ceux à qui tu laisses ton nom avec tes biens pourront aussi venir un jour visiter en touriste l'air dédaigneux, ta patrie, ton village natal, qui n'aurait su te donner qu'un cœur de paysan, une mentalité canadienne-française et une âme croyante et religieuse. Mais ce cœur de paysan, cet esprit canadien, cette âme avant tout catholique, quelle aura été leur part dans ce beau résultat de ta vie? Peux-tu me le dire aussi d'avance?
Jean, le veux-tu? Laisse-moi rêver autre chose pour toi. Autre chose qui répondra mieux à nos légitimes aspirations. Je suis obligée d'anticiper un peu la révélation de mes projets. Tu sais que mon devoir pastoral m'intéresse à l'établissement de nouvelles familles de la paroisse. Il le faut bien, puisque l'on vient si souvent prendre de moi conseil. Tu connais Pierre Briand, le plus à l'aise de nos cultivateurs. Il lui manque un fils, à qui laisser bientôt l'exploitation de son bien, qu'il devra confier à un gendre. Mademoiselle Esther, fille unique, est un beau parti, tout le monde te le dira ici. Et l'on a les yeux sur toi. Sais-tu pourquoi? Parce que tu passes déjà pour un jeune homme instruit, à l'égal au moins de cette héritière qui actuellement s'instruit.
En quoi tu reconnaîtras que l'on ne perd pas son avenir devant les livres? Tu étudies encore quelque temps pour être bien au-dessus de la moyenne des prétendants, en dirigeant désormais tes études du côté des sciences agricoles. Et, dans un an ou deux, Jean Pellerin est un notable, attendant de la bénédiction de Dieu et de la bonne terre canadienne le bonheur de sa vie paisible sûrement ordonnée. Va maintenant, je te quitte avec mon rêve. Réfléchis, prie, pour que ce rêve chasse ton cauchemar américain. En regagnant son humble foyer par la grande route qui dévale des hauteurs de Saint-Germain, ce soir-là, Jean entendait deux voix résonner à son oreille et dans son cœur. Celle de la cloche, qui n'avait pas fini là-haut d'évoquer le souvenir des trépassés, et une autre voix, jusqu'alors inconnue, douce et mystérieuse, qui chantait son avenir. Chapitre 6. Au rayon d'un bonheur anticipé. Heureux le jeune homme qui n'hésite pas à confier les premières aspirations de son cœur à sa mère. Bien que chez elle un amour plus généreux se trouve appelé à abdiquer alors une partie des droits qu'elle avait fait absolus, la confiance ingénue d'un cœur pur est si belle chose que rarement les mères se refusent à chaperonner les premiers amours de leurs enfants. Heureux de même celui qui hérite du foyer paternel. Il grandira sous le toit qu'il a reçu comme un ancêtre qui doit y régner, et le pressentiment de son règne le couvrira du bouclier qui fait l'effort, en même temps que la grâce de son âge lui donnera la tendresse qui fait les heureux. Aussi, la belle intimité puérile qui régnait jadis entre la veuve Pellerin et son fils, qui fit la consolation de leurs jours d'épreuves les plus sombres, et semblait quelque peu compromise en ces derniers temps par les études et les préoccupations secrètes du jeune homme, va-t-elle réapparaître à leur foyer? Ce soir du 1er novembre, quand déjà les ombres de la nuit, hâtivement descendues des collines, estompaient la ligne des grèves et des eaux, quand dans les cœurs le deuil des mauvais jours se ravivait chez les malheureux, l'œil de Jean, en face de sa mère, assise à l'humble table domestique, brillait d'une flambée insolite. Une espérance nouvelle, comme un oiseau du ciel traqué par les ténèbres extérieures, était venu se blottir dans cette âme ingénue, aux visions jusqu'alors si peu riantes. Le vin capiteux du premier amour, qui engage à parler, faisait insidieusement son œuvre. Nous savons bien qu'un rien lui sert de ferment, et nous comprenons comment la parole de son protecteur a pu avoir chez cet adolescent l'effet du coup de foudre. Qu'est-ce que cela veut dire, Jean? Tu parais bien animé. C'est-il parce que tu as sonné pour les morts? J'ai eu le temps de me reposer avec monsieur le curé, et c'est pour une autre chose qui va bien vous surprendre. Et quoi donc? Je crois que je vais devenir amoureux. Ah, mon pauvre enfant! L'amour, souvent, c'est comme le poison que le docteur administre à la dernière extrémité. Si on y goûte trop tôt et sans prudence, quelquefois on en souffre longtemps, et il arrive aussi qu'on en meure. Il faut être bien malade et laisser la décision au docteur. Et si on en use sans être malade? On devient malade. Il faudra alors dire tout cela demain à monsieur le curé, qui vient comme un docteur et comme si j'étais déjà malade, de m'en administrer une première dose. Y a-t-il moyen de te comprendre? Parle donc sérieusement, Jean. Eva, dans cet entretien candide de la mère et du fils, la révélation des grands projets de monsieur le curé. À son tour, l'œil de la pauvre femme s'anime sur cette vision de l'avenir. L'effluve printanier de son cœur, depuis si longtemps blasé, se ranime au foyer de la flamme naissante qui va maintenant lui disputer l'amour de son enfant. Mais, sans égoïsme, elle en jouira dans les conditions toutes spéciales qui s'offrent à la solution d'un souci dont plus d'une fois déjà son rêve avait été hanté. Puisque Jean renonçait aux études conduisant au suprême honneur de la prêtrise, Qu'allait-il devenir pour lui-même et pour elle? Attendrait-il de lui fermer les yeux, pauvre et déclassé, avant de s'établir à demeure au village ou de partir au loin? Secrètement, dans les cogitations de ses journées et dans les cauchemars de ses nuits, elle a pleuré sur l'inconnu de cette destinée. Problème qui fait pleurer tant de mères, et plus qu'une autre celle de l'orphelin. Combien de fois n'a-t-elle pas avoué qu'elle ne vivait plus que pour Jean? Désintéressée personnellement, toute dévouée à l'édification de son avenir, elle fait de cette tâche l'objectif ultime de sa propre existence. Jean, une fois établi, en train de vivre, comme elle dit, elle attendra, heureuse, l'appel de Dieu et le moment de partir à son tour. Le colloque de la mère et du fils, en cette soirée où s'ouvrait à leur vue une si belle avenue sur l'espérance, se prolongea. Et quand, dans la nuit sombre, à leur prunelle longtemps sans sommeil, l'éclair intermittent du phare venait illuminer la croisée, ils jetaient aussi dans leur âme une clarté plus intense sur leur bonheur de vivre. Monsieur le curé de Saint-Germain, puisqu'il avait trahi une première fois son secret, ne tarda pas à venir personnellement s'en entretenir avec la mère de Jean. Il ne fallait pas, certes, de longtemps encore rien en divulguer. Ce serait à la fois plus sûr et plus convenable d'observer la plus grande réserve, d'user même de cachotterie pour ne pas affoler les jeunes imaginations, et pour éviter le cancan villageois sur cette alliance si peu canadienne, préparée et résolue à la française par d'autres que les conjoints. La jalousie et la malveillance auraient assez beau jeu aux oreilles des brillants circonvenus par le favoritisme du curé. Oui, il fallait être bien discret. Mais l'on n'emprisonne pas l'aurore, a dit le poète. Et si discret que l'on fût, de part et d'autre, un mois plus tard, la grande nouvelle du grand projet de monsieur le curé brillait à son zénith dans le ciel, assez nuageux tout de même, du commérage local. Une seule personne encore n'en savait rien, mademoiselle Esther Briand, jouvencelle bientôt accomplie, qui, pour le moment, entre autres perfectionnements, étudiait la harpe dans une institution fashionable de la ville. Plus inquiète de son succès aux prochains examens d'une académie de musique que de son mariage avec le plus joli métayer de Saint-Germain. N'en dites rien, monsieur le curé. Réprimez, si c'est possible, pauvre mère pèlerin, l'éclat de voix joyeux et inaccoutumé qui voudra trahir vos allégresses, dans les conversations d'ailleurs futiles que vous tiendrez désormais, peut-être un peu trop complaisamment, chez la voisine, à la porte de l'église et partout, au hasard des rencontres et de vos désirs de chanter maintenant la vie. À la suite de ces études préliminaires continuées durant quelques mois encore, car rien ne presse, Jean aura bientôt fait d'acquérir à l'école d'agriculture les connaissances spéciales qui lui manquent. À cette fin, sérieux et généreux, il étudia avec ardeur et d'une manière pratique, au grand contentement de son bienfaiteur, qui se félicitait d'avoir su mettre en valeur cette intelligence assurément remarquable. Dans nos campagnes canadiennes, lorsque gens et bêtes ont déserté, après la moisson, les champs recouverts d'un épais tapis de neige, aux andins maintenant cristallisés et aux sources taries, la vie se concentre à l'abri de la froidure et des neiges. La stabulation des bêtes fournit aux gens une notable partie des travaux de leur journée, qui, avec la coupe du bois dans la forêt, leur laisse cependant de longues heures de réclusion au foyer bien clos. Une vie plus intime, plus familiale, commence alors. Portes et fenêtres se sont fermées à la bise mordante, quand naguère elles restaient presque toujours ouvertes à l'arôme des champs. Depuis Notre-Dame des Avants jusqu'au carême, le plus gaiement qu'elles s'ouvriront, les portes des demeures agrestes, ce sera pour laisser entrer les parents, les amis de la maisonnée. Le plus souvent possible, ils les franchiront à l'improviste, ou non, avec de grands éclats de voix et des mines réjouies. « Dégréez-vous, leur dira-t-on. c'est-à-dire « n'ayez crainte que nous ne comptions le temps qu'il vous plaira de séjourner chez nous », comme s'ils devaient y établir leur quartier d'hiver. Charmante expression de la belle hospitalité canadienne, disait Philippe Aubert de Gaspé, qui fait traiter son hôte comme un vaisseau que l'on met en hivernement. Une vie qui leur avait été jusque-là refusée allait donc occuper tout l'hiver ces bonnes gens. Le Jean de la veuve, devenu un si bon parti, sera convié à toutes les fêtes de famille. Il y brillera par son maintien distingué et le charme maintenant avéré de sa personne, sous le regard fier et attendri de sa mère, la première à s'étonner de son immutation. Ce fut bien autre chose lorsque le cousin riche Émile Dupin, lancé dans le grand monde de la ville, s'avisa du bon esprit de laisser voir qu'il n'oubliait pas, pour tout cela, ses parents de Saint-Germain. Les cadeaux de Noël qu'il leur envoya, suivant la coutume américaine, leur causèrent grande surprise et grand bonheur. Songez donc, une riche pelisse pour la tante et un complet de raquetteurs pour Jean firent accourir toute la paroisse au pignon rouge. Enchanté des sports d'hiver québécois si nouveaux pour lui, le jeune Américain écrit à son cousin qu'il viendra passer les vacances du carnaval avec ses bons parents pour connaître en hiver la vie campagnarde du Canada, dont il conserve un si frappant souvenir en été. Décidément, le Jean de la veuve est devenu un personnage. Quand, à travers champs, chaussé de sa raquette légère, la tuque sur l'oreille, la ceinture écarlate au rein, et le torse à l'aise dans son costume aux couleurs voyantes, il gagne vers les hauteurs du village. Plus d'un œil mutin est là, dans la croisée des maisons échelonnées sur les coteaux, cherchant à l'apercevoir du plus loin derrière le rideau de givre qui déchire nerveusement main d'oie rose. Il va gaiement par monts et par veaux, tantôt sombrant tout au fond de ses derniers où ne surnage plus que la tuque, pour émerger ensuite de toute sa taille agile et svelte au plaisir des yeux mutins. Et ses jours se passaient joyeusement, dans un renouveau de prévenances et d'égards, dont les échos n'avaient plus de cesse au foyer, comme au cœur reconnaissant des pèlerins. On y était sans doute depuis assez longtemps habitué, aux égards et aux prévenances des bons villageois. Ils ne firent jamais défaut depuis l'heure de la catastrophe qui avait brisé la famille. Mais alors, l'œil de la charité s'apitoyait sur une misère, et d'autre part, la voix de la reconnaissance s'embarrassait d'une gêne irréductible, fut elle-même sans aucun orgueil humilié. Aujourd'hui, on dirait que les sympathies sont moins inquiètes, sinon plus franches. Hélas, avouons-le, parce qu'un prestige mondain a passé sur eux, le prestige de la richesse apparentée. Mais ne scrutons pas davantage ce côté faible de la nature humaine, et réjouissons-nous de ce bonheur, même précaire, rassérénant par anticipation des yeux qui n'ont déjà que trop pleuré. Quand on possède 40 arpents d'une terre en plein rapport, avec des troupeaux primés à toutes les exhibitions agricoles, et plusieurs milliers de piastres en bon placement, on est certes en haut crédit, en vue, comme l'était à Saint-Germain le notable Pierre Briand. Et quand on s'appelle Mademoiselle Esther Briand, unique héritière de ce notable, si l'on est encore plus jolie que la moyenne des héritières, mieux éduquée déjà que toute la jeunesse des alentours, ne vous étonnez pas si le dimanche, sur la grande route, tant d'autres obséquieux cèdent le pas à l'équipage relativement somptueux où se prélassent Monsieur, Madame et Mademoiselle Briand. C'était d'accoutumer, mais autre chose en plus depuis quelque temps, attirer des regards intéressés sur cette famille. L'actualité dirait aujourd'hui le journal à potins, l'actualité qui met temporairement en vedette le malheur de celui-ci ou en vogue l'heure de celui-là. L'actualité s'était emparée des noms, des intérêts, des sentiments, des défauts et des qualités de la jeune fille riche et du jeune homme pauvre, qu'elle promenait en catimini de foyer en foyer, les affublant ici d'un éloge, là d'une épigramme. On eut beau sujet de discourir et d'épiloguer sans plus de contraintes, lorsqu'une première fois, les deux familles de conditions si diverses dont se préparait l'alliance se virent ostensiblement réunies. À aucune autre époque de l'année, la sociabilité campagnarde ne s'accuse avec plus d'intensité et de sincérité qu'aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Cette année-là, Jean et sa mère, qui en tout autre temps n'auraient été qu'à peine remarqués, furent l'objet de maintes distractions durant la messe de nuit, où tant de belles choses religieuses, de chants pieux parlant aux cœurs vieux ou jeunes, n'empêchaient que péniblement des regards furtifs de s'attarder autour de la pelisse neuve et du joli garçon. Sans doute, la foi et la piété l'emportèrent finalement, pour le bien des âmes, sur ces tentations du siècle. Mais ce fut pour mieux autoriser ensuite la relâche des esprits et des verbes, lorsqu'au sortir de l'office, un hasard des plus opportuns rapprocha le couple pèlerin du groupe brillant, au milieu duquel la jeune Esther, revenue de son couvent, faisait le point de mire des civilités villageoises. Or, lorsqu'on s'entend, on n'est plus communicatif. En cette nuit de Noël, voyez-vous, les âmes toutes vibrantes aux plus beaux sentiments de la vie se font plus généreuses et plus ouvertes. Dans son bonheur familial et chrétien, le père brillant, dont la demeure est voisine de l'église, n'a plus à pactiser avec aucun faux respect humain qui en aurait retenu bien d'autres. Il invite, il entraîne la pauvre veuve et son fils au traditionnel réveillon, où des pâtes grasses ou sucrées les attendent chez lui. Après quoi, si vous ne dormez pas encore, villageois, vous entendrez son attelage au trot bien connu reconduire ses hôtes à leur humble logis du bord de l'eau. Si monsieur le curé de Saint-Germain n'eût pas été retenu par d'autres obligations pastorales, d'un effet plus général, nul mieux que lui n'aurait pu jouir de ces agapes improvisées qui allaient servir de préliminaire à la réalisation de son rêve. En effet, pendant que les mamans, au verbe exercé, mènent bon train à la chronique locale, que le papa, en présidant aux honneurs de sa table, use de son droit incontestable et incontesté d'opiner au racontard ou de s'en désintéresser, elle commence délicieusement à se faire entendre la cantilène des cœurs qui n'ont pas encore 20 ans. Mademoiselle Esther Brillant, initiée à la vie commune du pensionnat scolaire, avec les rejetons de la belle société urbaine dont les mœurs sont modernisées, brille d'une candeur fort estimable, sans être trop naïve. Et Jean devra mobiliser toutes ses forces d'humaniste pour ne pas laisser déborder ses ailes et pour suivre les évolutions inattendues de la conversation. Aux usages de la ville qui lui sont encore étrangers et dont on l'entretient un peu malicieusement peut-être parce qu'il en ignore, il opposera l'expérience toute récente et l'attrait viril de ses courses nautiques de l'été dernier avec son cousin, qui, certes, en cette conjoncture, vaut bien qu'on en cause. Il est attendu, cet intéressant cousin. Il viendra bientôt revoir la campagne durant les vacances de Noël. Ce sera charmant de se revoir, d'initier cet Américain aux amusements de l'hiver canadien comme aux usages de nos foyers champêtres dans les réunions familiales, dont la villégiature en été ne saurait rien lui dire. On vivra de beaux jours et d'agréables soirées. Et la conversation s'anime, et les deux mères, de temps à autre, échangent des regards expressifs qui vaticinent sur le bonheur de leurs enfants. De si belles heures sont rapides. Bientôt il fallut en ajourner l'agrément. Pendant que le papa s'occupe d'envoyer le garçon de ferme atteler à la belle carriole, que les deux femmes ont beaucoup à se dire dans la pièce voisine où l'on a déposé la belle pelisse, les deux jeunes gens parlent aussi d'abondance pour mieux masquer peut-être ce qu'ils n'osent pas s'avouer encore. Mais la glace est bien rompue entre vieux et jeunes. C'était si facile. Ne se connaissait-on pas depuis l'enfance? Il ne suffisait que d'y songer, à la suggestion de monsieur le curé pour s'apprécier davantage. Quelques instants plus tard, au trot cadencé de la bonne bête, s'ébrouant dans sa course sur la route jalonnée de sapins verts, deux cœurs battaient la charge de leur émoi, dans la nuit claire, sous le scintillement de milliers d'étoiles qui semblaient en sourire. Là-bas, tout à l'extrémité de la batture de glace, l'œil attristant du phare était éteint. Seul un rayon de la lune jetait dans le verre de la tourelle l'éclat froid de son spectre d'argent.